R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Merci Olivier. Je tiens tout d'abord à te remercier pour ton invitation et à remercier aussi tout le personnel de la bibliothèque de m'accueillir, qui s'est vraiment démené pour qu'on puisse que je puisse donner cette conférence. Je tiens à vous remercier aussi à vous d'être venu. C'est toujours un peu l'inconnu quand on présente une conférence. Je suis surpris, agréablement surpris, qu'il y ait un très jeune public. Donc ça va être pour moi un peu une gageure cet après-midi de faire le grand écart, à la fois vous donner des connaissances à vous, adultes, puis essayer d'intéresser les petits bouts de chou. Voilà. On va partir pour ces voyages en des contrées rêvées. Je vais commencer. Alors, qui avait-il au commencement, avant que le monde soit le monde, avant qu'il y ait la terre, l'eau, les végétaux, les animaux, puis des cités? Alors, selon les cultures, les civilisations, il y a différentes réponses. Pour certains, il y avait la parole. Pour d'autres, il n'y avait rien. Et puis, c'est pour répondre à cette question que les hommes se sont mis à inventer des histoires et à les raconter. Donc, en Grèce, les poètes ont raconté qu'au commencement, il n'y avait rien. C'était un grand vide. Et ils ont donné à ce vide le nom de chaos, le nom de béance. C'est de ce vide qu'apparut la Terre qu'ils ont appelée Gaïa. Et Gaïa, au début, elle était seule. Et après, elle a donné naissance au ciel, Uranos. Alors, Uranos s'est mis à recouvrir complètement la Terre. Et de leur union sont nés les Titans. De puissants géants, il y avait 6 garçons, 6 filles, qui étaient coincés comme ça, entre le ciel et la terre. Et comme ils étaient coincés entre le ciel et la terre, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas sortir, donc c'était la nuit. C'est la nuit continuelle, c'est la nuit permanente. Pas de lumière, pas de jour. Et à un moment, Gaïa dit, mais Uranos, tu es en train de m'étouffer, tu es en train de m'écraser, détache-toi de moi. Mais Uranos refuse, se colle encore plus. Uranos veut encore plus d'enfants, mais Gaïa, là, c'est 12, ça fait beaucoup. Donc, avec l'aide de Cronos, elle réussit à se séparer d'Uranos. Cronos, c'est un de ses enfants. C'est celui qui est le plus rebelle, celui qui est le plus polisson, on dirait aujourd'hui. Et en fait, Gaïa va donner à Cronos une serpe, c'est comme une petite épée recourbée, de manière à blesser Uranos. Et Uranos, lorsqu'il est blessé, il hurle, il crie. Il se détache de Gaïa, libère les Titans, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le jour, qu'apparaît la lumière. Il y a de nombreuses gouttes de sang qui tombent dans la mer. Alors si je vous ai raconté cette histoire, c'est d'abord parce qu'il faut bien commencer. C'est un des récits des origines qu'on trouve chez les Grecs, mais aussi avec d'autres noms dans d'autres civilisations. Et c'est aussi parce que ça nous emmène dans notre première contrée rêvée, Cythère. Alors en fait, les gouttes de sang qui tombent dans la mer, elles tombent à proximité de l'île de Cythère, qui se trouve en Grèce, du côté de la mer Égée, pas loin des côtes de la Laconie, et c'était à l'époque la propriété d'un peuple qu'on appelait les Argiens. Et en fait, c'est parce que lorsqu'il entre en contact avec la mer, les gouttes de sang donnent naissance à une déesse, la déesse Aphrodite, qui sera la déesse de l'amour, que les habitants vont construire un temple qui sera dédié à l'amour. Et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, dans l'imaginaire des voyageurs, dans l'imaginaire des marins et des raconteurs d'histoires, l'île de Cythère va représenter l'île des amours. Puisque nous sommes dans les parages de la Grèce, nous allons y demeurer avec une autre histoire qui est liée aussi à des lieux et à des héros. C'est celle de la guerre de Troie. Alors avant d'être connue sous le nom de Troie, cette ville a eu plusieurs noms. Darda, Tros, Ilion. Et puis, elle a changé aussi plusieurs fois de place, parce qu'on a oublié où elle se situait exactement. Donc pourquoi Troyes est devenue une ville maudite ? Parce que son souverain, le roi Laomédon, a oublié de récompenser les dieux Apollon et Poséidon qui l'avaient aidé à construire de grandes murailles autour de la ville. Les dieux n'aiment pas qu'on ne les remercie pas. Pour les punir, ils vont déchaîner la guerre sur la ville de Troie. C'est une ville qui va être attaquée, assiégée, et qui va finalement tomber, vous savez comment, grâce à la ruse du cheval de Troie. C'est une guerre de 10 longues années que chantera notamment le poète Homère dans l'Iliade. La ville sera complètement détruite. On perdra sa trace. Troie continuera pourtant de fasciner les voyageurs, les archéologues, grâce aux descendants de héros dont le souvenir va se conserver. Ogygie, quel est ce nom curieux ? Un des rois qui a participé à la guerre de Troie, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, il se nommait Ulysse. Après 10 années de guerre, Ulysse veut rentrer chez lui, il veut retrouver son royaume d'Ithaque. Alors, il monte sur un bateau avec ses compagnons, ils sont très nombreux au départ. C'est un voyage qui va durer plus de 10 ans, parce qu'il va y avoir plein de difficultés sur la route. Ulysse et ses compagnons vont rencontrer des cyclopes, des sirènes. Et à un moment, Ulysse va faire escale dans une grotte. C'est la grotte de Calypso. Calypso, c'est la fille d'Atlas. Elle tombe amoureuse d'Ulysse et elle décide de le retenir. Et Ulysse est tellement bien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est agréable. Il y a à manger, il y a à boire. Il fait bon. Les femmes sont belles, en particulier Calypso. Pourquoi partir ? Après tout, Pénélope fait du tricot à la maison, de la tapisserie. Est-il de se presser pour rentrer ? Où se trouve-t-elle, cette île de Calypso ? Alors, il y a eu plein de lieux qui ont été proposés. Alors, pour les Grecs, elle est dans la région de Crotone. Pour d'autres, elle est plus au sud. Alors, certains ont fait des calculs, parce que Ulysse a atteint cette île après avoir dérivé pendant 10 jours, poussé par les vents. Et puis, quand il l'a quittée, il a eu besoin de 17 jours pour atteindre le pays des Phéaciens. Donc, on essaie comme ça. Alors, parce que le poète Homère fait référence à des cèdres et à des touillas, certains ont pensé que la grotte de Calypso se trouvait au large des côtes marocaines. Et puis d'autres, comme l'historien Hérodote, pensent que c'est plutôt du côté de Gibraltar. Moi qui viens de Malte, je peux même vous dire qu'il y a sur l'île de Gozo une grotte dont on dit que c'est celle de Calypso. On peut y descendre, on pouvait y descendre. Maintenant, quelqu'un a dû tomber, se blesser, parce que l'entrée est murée. Mais il y a quelques années, on pouvait descendre dans cette grotte. Il y a une toute petite fenêtre comme ça, qui nous permet d'apercevoir le rivage et la mer. Voilà, on s'assied, on imagine que c'est là qu'Ulysse attendait avec Calypso, qu'il passait du bon temps, jusqu'au point d'oublier qu'il devait rentrer chez lui pour retrouver son épouse en son royaume d'Ithaque. Alors, nous allons quitter la Méditerranée pour l'Orient. De l'Antiquité au Moyen-Âge, l'Orient, c'est cet immense territoire qui se situe à l'est. On dit à l'extrémité de la Terre, là où se lève le soleil. C'est pour ça qu'on pense que là-bas, il fait toujours très chaud. Et que, parce qu'il fait très chaud, cela frappe la nature et que cela donne naissance à des créatures étranges. Alors vous apercevez ici quelques-unes de ces créatures. Vous avez ce qu'on appelle le blémi, celui qui a un visage au milieu du torse. Vous avez également le siapode, celui qui n'a qu'un seul pied, qui fonctionnait comme une ventouse, ce qui expliquait qu'il pouvait, lorsque la Terre se déplaçait, lorsque la Terre tournait, qu'il pouvait rester collé à la surface du globe. Donc on imagine qu'il y a ces créatures. On pense aussi qu'il y a des animaux fabuleux, comme le phénix, l'oiseau roc ou la licorne. Vous connaissez la licorne avec la corne unique. Et puis on pense aussi que c'est un territoire qui produit des minéraux précieux, notamment des pierres, des diamants. Et aussi on pense que c'est là que se trouve un des accès au paradis terrestre. Qu'il y a aussi la montagne où s'est échouée l'arche de Noé, ou encore la cité dont sont originaires les rois mages. Alors, il y a plusieurs voyageurs qui se sont rendus en Inde, et notamment au XIIIe siècle, un moine franciscain, Giovanni di Montecorvino, qui décrit les habitants. Alors lui, il ne trouve pas les monstres, donc il décrit ce qu'il voit. Il dit « Ah, les gens ici ne sont pas vraiment noirs, mais olivâtres. » Je trouve que c'est une très jolie couleur. Ils sont très bien faits, donc ils sont constitués normalement. Ils marchent pieds nus, portent un pagne autour d'eux. Ils ne se rasent pas et se lavent beaucoup de fois par jour. Ça, c'est la première description qu'on a des habitants des pays d'Orient. Mais en fait, c'est Marco Polo qui va donner le plus d'informations, celles qui vont alimenter les rêves de richesse des voyageurs. Marco Polo écrit « Quand on part de l'île de Ceylan et qu'on va à l'ouest, on trouve la grande province de Coromandel qui est appelée Inde majeure. C'est la plus belle et la plus magnifique contrée au monde. On trouve des perles très grosses et très belles et je vais vous dire comment on les trouve. » Vous pensez, il écrit cela, de nombreux voyageurs vont partir avec le livre pour chercher, trouver l'or, trouver des pierres précieuses. Et Marco Polo continue de raconter qu'entre Ceylan et la terre ferme, il y a un golfe dans lequel il n'y a que 10 ou 12 pas d'eau, donc ce n'est pas très profond. Là, les hommes se jettent à l'eau, où il y a de 4 à 12 pas d'eau, et ils restent au fond autant qu'ils peuvent. Et ils trouvent des coquillages dans lesquels sont des perles, évidemment des perles gigantesques. Ils sont aidés par les sorciers qui vivent dans les parages, qui ensorcellent les poissons comme ils ensorcellent les bêtes et les oiseaux et tout ce qui est vivant. Et Marco Polo décrit aussi les animaux. Il dit, les lions, ils sont tout noirs, il y a des perroquets de diverses espèces, car il y en a de blancs comme la neige, avec le bec et les pattes vermeilles. Et il y en a aussi de vermeils et des bleus, qui sont la plus belle chose au monde à voir. Ils ont aussi de très beaux paons, plus grands que les nôtres et différents, et ils ont des fruits extraordinaires. Et tout cela en raison de la grande chaleur qu'il y fait. Alors ici, quelques-uns des souverains et des habitants qui ont été rencontrés par Marco Polo. Alors ça, ce sont des illustrations qui sont tirées du livre du Devisement du Monde. C'est l'édition du XIVe siècle. Et vous apercevez ici la fameuse licorne. Alors, c'est pas très loin de l'Inde que se trouve un autre pays qui s'appelle le Cathay. Le Cathay, ça ne vous dit rien, c'est la Chine. Alors, au début, on l'appelle le pays des cerfs. Le pays des cerfs, alors ça ne s'écrit pas comme le cerf, l'animal avec les grandes cornes, c'est ceux qui fabriquent la soie. Et en fait, les voyageurs appellent aussi les habitants de ce pays les Kitans ou Kitais. Et c'est de là que vient le nom Cathay. Alors, au cours de son voyage au XIIIe siècle, dans cette partie du monde, le moine franciscain Guillaume de Rubrou, qui est un voyageur très célèbre à l'époque, rencontre des tas de peuples différents, les Ouïghours, les Tangouts, les Tibétains du Nord, et il les décrit comme des hommes très forts. Il rencontre aussi, parce qu'il se déplace plus à l'est, des Coréens, qu'il décrit de petite taille et basanés comme des Espagnols. Et c'est un des premiers à donner un portrait des Chinois, bien avant Marco Polo. Il dit « ils sont de petite taille et nasillent en parlant ». Eh oui, quel est ce son étrange quand il parle ? Comme tous les orientaux, ils ont en général de petits yeux. Hein, et longtemps, les illustrations montreront des Asiatiques avec des tout petits yeux, des points comme ça. Mais c'est de nouveau grâce au récit de Marco Polo que, de terre lointaine, le Cathay, la Chine, va devenir une terre mythique. Marco Polo aime la démesure quand il raconte. Et ce qui l'impressionne le plus, c'est le palais du Grand Khan. Alors, ce n'est pas comme Versailles. La chance de vivre à Paris, dans les environs, vous êtes peut-être allé à Versailles. un grand palais en pierre, d'accord. Le palais du grand Khan, qui est l'empereur chinois, c'est un palais démontable et tout en bambou, en pièces de tissu. C'est un palais gigantesque pour l'empereur et pour sa cour. Et ça, ça impressionne Marco Polo. Mais ce qui l'impressionne encore le plus, ce sont les temples, qu'on appelle des pagodes, qui sont tout en or. Il les décrit tout en or. Il dit, ah, y a de l'or partout, sur le toit, sur les murs. Ça, c'est très important, parce qu'il y a un voyageur qui lira Marco Polo et qui voudra aller trouver ces temples en or. Il s'appelle Christophe Colomb. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors ici, vous avez une carte de Fra Mauro qui date du début du XVe siècle. Vous avez ici marqué Katayo, le Katé, la Chine. Donc ici, on a une représentation. Alors à l'époque, on écrivait beaucoup de choses sur les cartes. On ne donnait pas simplement les noms des lieux. On donnait aussi des informations sur les gens qui vivaient là, sur ce qu'on trouvait. Pas très loin du Katé se trouve un pays, une contrée rêvée, qui a un très beau nom, je trouve, Sipango. Fait rêver, Sipango. Sipango, c'est le Japon, l'archipel. Alors, voyez que autant parfois on a des cartes assez précises, autant là, les cartes du Japon, bon, on ne reconnaît pas le Japon. On voit des îles. Alors, pareil, comment faisaient les cartographes? Alors, soit ils s'appuyaient sur les récits des voyageurs, les calculs des voyageurs, ils dessinaient d'après les calculs, soit ils partaient des récits. Ah oui, il y a plusieurs îles. Prenez le crayon, je vais en dessiner, moi, des îles. Dessiner plusieurs îles. On mettait un peu de couleur ici, du rouge, tiens, du bleu, un peu de violet, c'est joli. On écrit, d'accord. Quand on ne savait pas quoi mettre, on écrivait beaucoup. Ça, ça occupait de l'espace. Bien. Or, Sipango, c'est un peu comme la Chine. C'est un pays qu'on va imaginer avec beaucoup de richesses. Or, Marco Polo, encore, qui a voyagé jusque-là, écrit « Sipango est une île du Levant en haute mer, éloignée par 500 milles de la terre ferme. C'est une très grande île. Les gens sont blancs et ont belle allure. Ils sont idolâtres et indépendants. Et je vous assure qu'ils ont une quantité infinie d'or, car ils la trouvent dans leurs îles. Peu de marchands y vont, parce que c'est si loin de la terre ferme. » Et il décrit le palais de ce qui est à l'époque l'équivalent de l'empereur du Japon, avec beaucoup d'or et beaucoup de pierres précieuses. Et je vous dis qu'en raison de cette grande richesse qui était dans cette île, dont on avait fait le récit au grand Khan, il décida de la faire prendre. Ici, il donne une information sur l'origine des guerres entre la Chine et le Japon. Or, c'est merveilleux, vous allez me dire, mais Marco Polo, il fait que raconter. Est-ce que c'est simplement un raconteur d'histoire? Non, Marco Polo ne va pas se contenter de raconter ses merveilles. Il va aussi en rapporter. Lorsqu'il revient d'Asie, avec son père Niccolo et son oncle Maffeo, ils reviennent à Venise en 1295. Rares sont ceux qui veulent croire au récit que leur fait Marco Polo de leur voyage, au Katé, à Sipango, en Inde, que ce sont là les trois citoyens de Venise qui sont partis 24 années plus tôt. Aujourd'hui, on prend l'avion, la voiture, on se déplace rapidement. Mais à l'époque, voyager aussi longtemps, c'est dangereux. Chaque pays, c'était des dangers, des obstacles, des péripéties. Aussi, comme les Vénitiens sont incrédules, les habitants ne les croient pas, Marco Polo, son père et son oncle, défont les couture de leurs vêtements, et qu'est-ce qu'ils en sortent? Des pièces d'or, des joyaux, des perles, des diamants qui leur avaient été notamment offerts par le grand Khan. Et à ce moment-là, les Vénitiens les croient. Effectivement, ils sont partis là-bas, ils ont rapporté des richesses. Et il doit y en avoir encore plus qu'ils ne le racontent, puisqu'ils en ont rapporté autant. Celui qui écrira les histoires de Marco Polo dira que lorsqu'il avait demandé à Marco Polo « Mais est-ce que tu m'as vraiment tout raconté ?» Marco Polo lui répondra « En réalité, je t'ai simplement raconter la moitié de tout ce que j'ai vu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un voyageur que ces récits ont beaucoup impressionné. Ce voyageur, il se nomme Christophe Colomb. Il est génois. Et en fait, il essaye d'abord d'organiser un voyage avec sa patrie, mais on lui refuse des bateaux. Alors il va aller voir plusieurs souverains, jusqu'au roi et la reine de Castille, et il va réussir à les convaincre de lui donner 3 bateaux, une armada, pour pouvoir rejoindre les Indes en faisant le tour de la Terre. À ce moment-là, lorsqu'il rencontre ces indigènes, ces autochtones, Christophe Colomb est persuadé d'avoir atteint Cathay, Cipangou ou les Indes. En réalité, il est parvenu dans les Antilles. Et dans les Antilles, il n'y a pas de palais avec de l'or. Il n'y a pas autant de richesses, de pierreries qui ont été décrites par Marco Polo. Problème, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On cherche ailleurs. On va continuer. Christophe Colomb et ses hommes reprennent place à bord de leur bateau, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, et vont explorer les autres îles en disant « Mais questionne les Indiens. Essayez de parler avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas un mot de la langue, dont la langue est radicalement différente de la vôtre. Qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, on ne se comprend pas. Christophe Colomb demande « Où est l'or ? Où sont les pierreries ? Où est le grand canne ?» Les indigènes lui répondent « Ah bah ça doit être là-bas. Tiens, il a dit que c'était plus loin. On va aller plus loin. » Il remonte dans les bateaux et à chaque fois, il rencontre des indigènes. Demande « On donne quelques éléments d'or, des pierres. » Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais Christophe Colomb s'entête, il va continuer et il va revenir en Espagne avec des Indiens, mais aussi des pierreries, de l'or. Et là, il va raconter « Ah oui, mes amis, il y a là-bas, dans ces territoires, des montagnes d'or, des richesses à n'en plus finir. » Et ça va marcher. La reine et le roi vont lui donner une armada encore plus importante, 17 navires cette fois-ci. Il repart. Et là encore, il ne trouvera pas de montagnes d'or, pas de montagnes de pierreries, pas autant de richesses que ce qu'il a décrit. Et c'est seulement à l'issue de son troisième voyage, en 1498, que Christophe Colomb prend conscience que c'est une nouvelle terre qui a été découverte. C'est simplement le début d'un autre monde. Mais il est trop tard. La fièvre de l'or a contaminé de nombreux explorateurs espagnols, de nombreux conquistadors qui se nomment Pizarro, Francisco de Orellana. Et eux, ils ne vont pas rester dans les Antilles. Eux, ils vont toucher l'Amérique du Sud. Ils vont explorer. Ils vont rencontrer les Incas et ça va être la destruction de l'Amérique latine. Donc ils vont trouver de l'or, ils vont en rapporter, mais à quel prix ? Le pays des Amazones. Alors ça, c'est une contrée qui est intéressante parce que c'est une contrée qui s'est déplacée dans le temps et sur l'espace. C'est dans les enquêtes d'Hérodote qu'on trouve une des premières mentions des Amazones. Elles sont désignées comme des oyorpata, c'est-à-dire des tueuses d'hommes. Ce sont de redoutables combattantes, des guerrières, qui ne gardent les hommes que pour avoir des enfants. Et un autre historien, Diodore de Sicile, raconte chez les nouveau-nés, les garçons étaient mutilés des bras et des jambes, tandis qu'aux filles, on brûlait le sein droit afin que cette proéminence ne les gêne pas pour tirer à l'arc. Et au départ, le pays des Amazones, il se trouve en Libye, il se trouve en Afrique du Nord. C'est là qu'elle domine les Atlantes, les Numides, les Éthiopiens. Ensuite, ce pays se déplace, d'après les géographes, les cartographes, du côté de la Colchide. Puis, on retrouve cela du côté du pont Euxin, c'est-à-dire aux marges du monde connu. Les Grecs ne connaissaient qu'une toute petite partie du monde, le pourtour méditerranéen. Donc on pense que le pays des Amazones se trouve
par là. Là encore, c'est très imprécis. Pourquoi ? Mais parce que tant qu'on ne tombe pas, tant qu'on ne rencontre pas cette peuplade de femmes, on déplace le pays dans lequel elles sont supposées vivre. Tout au long du Moyen-Âge, les Amazones vont fasciner. On va les rechercher sans jamais les trouver. Et au XVIe siècle, le mythe des Amazones va voyager avec les conquérants espagnols. Et en fait, il va voyager grâce à l'explorateur Francisco de Orellana, qui raconte à un moment, par l'intermédiaire du moine qui l'accompagne, que, alors qu'ils sont du côté d'un immense fleuve, ils auraient été attaqués par un peuple de femmes, des combattantes vaillantes, belliqueuses, et il assure qu'il n'a vu absolument aucun homme. Donc il est persuadé qu'il a enfin rencontré, découvert les Amazones. C'est à partir de là que cet immense fleuve a été baptisé fleuve des Amazones. Et comme les conquistadors cherchaient partout de l'or, ils se sont mis en tête que c'était les Amazones qu'ils gardaient, que c'est pour ça qu'elles agressaient les hommes, parce qu'ils voulaient leur prendre leur or. Et le mythe des Amazones va durer encore très longtemps, parce que d'autres vont les rechercher sans les trouver. Et il prendra fin à la fin du XVIIIe siècle, avec un voyageur qui s'appelle Lacondamine, un Français, qui remonte le fleuve sur des kilomètres pour récupérer des plantes, des animaux, des spécimens. Et il dit, mais moi, on m'a dit que les Amazones vivaient dans les parages, on n'a rencontré aucune présence humaine. Et voici la carte qui a été établie par Charles-Marie de Lacondamine. Il y a, comme le pays des Amazones, plusieurs lieux qui vont être associés à la recherche de l'or et des pierres précieuses. Un autre lieu est Cibola. Or, Cibola, c'est une histoire fascinante. Pourquoi on croit qu'il y a 7 cités d'or ? Alors, s'il y a des personnes qui ont la quarantaine, vous vous souvenez peut-être de cette série dessin animé, Les merveilleuses cités d'or avec Esteban, Zia, Tao, conquistador à la recherche des cités. Et en fait, il y avait plusieurs moines qui, en Espagne, lorsqu'il y avait la conquête des Arabes, ont décidé de sauver les richesses, ont traversé la mer. C'était 7 moines, et chacun des moines a fondé une cité dans laquelle il conservait les richesses. D'où 7 cités d'or. Et c'est ce mythe des 7 cités d'or, là encore, les explorateurs vont le rechercher. Comme ils n'ont pas trouvé l'or du pays des Amazones, ils partent chercher l'une ou l'autre des cités de Cibola. Vous avez une expédition en 1527 qui s'échoue en Amérique du Sud. Il n'y a que 4 survivants. Et l'un de ces survivants raconte qu'il a parlé à des indigènes et qu'il a entendu un nom, Cibola. Tout de suite, cela fait écho, les explorateurs comprennent. C'est l'une des cités d'or, Cibola. Où ? Ils dépêchent une expédition, ils prennent plusieurs routes. Évidemment, ils ne trouvent pas de cité d'or. Ils tombent sur des pyramides. Ils réussissent à obtenir des indigènes, des plats d'or et d'argent, des perles, mais pas de cité. Pas de cité entièrement en or. Une autre contrée qui s'inscrit toujours dans ces cités d'or, c'est Eldorado. Alors le pays d'Eldorado, c'est un pays qui a voyagé sur toute la surface de l'Amérique du Sud. Et en fait, à l'origine, il y a une légende. La légende de l'homme doré, El Dorado, en espagnol. En fait, c'était un chef, un cacique, qu'on recouvrait de poudre d'or et qui plongeait une fois par année dans le lac Parimé. Et les membres de la communauté jetaient des objets en or dans le lac. Et de cette histoire, qui a été racontée par des Indiens en conquistador, est née l'histoire est née la croyance en l'existence d'un lac doré, puis d'un pays entièrement en or. Et là encore, ce mythe d'Eldorado, vous avez conquistadors qui vont le rechercher dans les années 1530 pendant des années sans jamais pouvoir parvenir à l'approcher, ni trouver ce lac tout en or, ni trouver ce pays tout en or. Donc on le trouve tout d'abord du côté du Chili, de la cordillère des Andes, puis ensuite les explorateurs remontent, on le trouve ensuite localisé tout au nord, mais à chaque fois c'est la déception. La déception, chaque fois, repousse les explorateurs, les amène à explorer d'autres contrées, sur d'autres territoires. Alors, dans ces siècles, 15e, 16e siècle, l'Amérique n'est pas la seule à faire rêver les voyageurs. Il existe une vaste terre qui est connue depuis très longtemps, qui est connue bien avant l'Amérique, où il y a aussi des royaumes. Des royaumes extraordinaires, c'est l'Afrique. Un des royaumes qui a le plus fasciné les Occidentaux, c'est le royaume du prêtre Jean. Alors, je vous montre d'abord une des premières cartes de l'Afrique. Après que Bartolomeu Dias de Novaes est le premier contourné l'Afrique, il s'est arrêté juste au Cap, et ensuite c'est Vasco de Gama qui contourne l'Afrique et qui rejoint les Indes. Donc on sait à ce moment-là que l'Afrique est une terre finie, alors que pendant longtemps, on n'en dessinait qu'une partie, on ne savait pas ce qu'il y avait. Alors ce contournement de l'Afrique, il est capital, parce que jusqu'alors, pour se rendre en Inde, il fallait passer par ici. Il y avait un détroit qui était tenu par les Vénitiens, qui faisait payer très cher le droit de passage. Grâce à cette nouvelle route, voilà, plus besoin de donner de l'argent aux Vénitiens, on peut aller chercher des épices, du gingembre, du poivre, des clous de girofle, qui étaient très précieux à l'époque. On peut aller les chercher directement. Alors, vous voyez là aussi qu'il y a une créature étrange. Regardez, elle a un seul œil au milieu du front. Donc, cyclope en Grèce, en grec, monoculus en latin. Alors là encore, cette carte est intéressante parce que on n'a pas encore tout exploré, mais le cartographe remplit la carte. Alors, il parle d'une île et ensuite fleuve Nil, bon, il dessine plusieurs ramifications. Et on pensait que, voilà, une des ramifications du Nil menait au paradis. Alors, le royaume du prêtre Jean, c'est un royaume qui va fasciner les Occidentaux. Pourquoi ? Parce que vous avez des voyageurs qui se rendent en Afrique, qui voyagent, notamment des ambassadeurs. Et à un moment, un de ces ambassadeurs rentre et dit au pape, écoutez, j'ai rencontré un royaume fabuleux, extraordinaire. C'est un royaume chrétien en Afrique. L'Afrique, c'était à l'époque la terre des païens, la terre de ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Le pape est enthousiaste, mais c'est formidable. Il envoie de nouveaux ambassadeurs et effectivement, il rencontre une cour avec énormément de courtisans, un empereur. C'est gigantesque. Et on pense que c'est un royaume chrétien, on appelle l'empereur le prêtre Jean. En réalité, c'est l'empereur de l'Éthiopie, celui qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Négus. Et c'est parce que l'un des ministres du Négus est chrétien qu'on a pensé pendant longtemps que tout le royaume était chrétien. Vous voyez, on faisait simple à l'époque, il y avait un chrétien, hop, tout le monde est chrétien. Je vous laisse imaginer la déception lorsqu'il se sont aperçus que tout le royaume n'était pas chrétien, loin de là. Mais un royaume qui est beaucoup plus fabuleux, finalement, que le royaume du prêtre Jean, c'est le royaume de Saba. Alors, je vous montre ce personnage, c'est la reine de Saba. Alors, pourquoi cette reine et surtout le royaume qui est le sien fascine, c'est parce que le mythe du royaume de Saba croise celui des mines du roi Salomon. Qui est cette reine? Alors dans la Bible, elle est décrite comme une femme d'une beauté extraordinaire qui a rendu visite à Salomon en son royaume d'Israël et qui lui aurait fait don de nombreux présents, des parfums, des pierres précieuses, de l'or. Salomon lui aurait fait découvrir son palais, sa cour, son royaume.
et elle serait retournée en sa riche contrée en faisant l'éloge de Salomon. Et là encore, les explorateurs portugais vont chercher pendant des années ce fameux royaume de Saba, parce qu'eux aussi, ils veulent trouver l'or. Ils savent que les Espagnols cherchent de l'or en Amérique. Et ça les fait sourire, parce qu'ils ne trouvent pas d'or. Et ils se disent que l'or est peut-être ailleurs, sans doute en Afrique. Il y a dans la Bible des descriptions du royaume de Saba, et à chaque fois, on retrouve les pierreries, l'or, l'ivoire, les esclaves, les singes, les paons. Et les voyageurs, ils ne les trouvent pas. Mais ils reprennent quand même ces descriptions en disant « si ce n'est pas dans ce royaume, c'est plus loin ». Donc, pendant un moment, on va penser que c'est au sud du Congo. On va penser aussi que c'est au Monomotapa. Mais là encore, le royaume de Saba va garder ses secrets. Personne ne va le trouver. L'Afrique va garder ses mystères. Les mythes et les rêves ne prennent pas fin avec les 16e ou 17e siècles. Au 18e siècle, il y a un royaume en Inde qui est le royaume de Golconde. Or, c'est un royaume qui est surtout connu parce que là, il y a des pierres précieuses. Et puis, la population réalise aussi de superbes objets en miniature que les voyageurs vont rapporter au roi en montrant ce qu'on produit dans cette région. Et la cour est très raffinée. Ils décrivent une reine qui est un exemple de monarque éclairé. Il y a un voyageur qui écrit « Je parcourus les différents royaumes qui partagent ce vaste pays, l'Inde, et je m'arrêtai en Golconde. C'était alors le plus florissant, c'est-à-dire le plus riche état de l'Asie. Le peuple était heureux sous l'empire d'une femme qui gouvernait par sa beauté le roi et le royaume par sa sagesse. Les coffres des particuliers et ceux de l'État étaient pleins. Les villes ornées d'édifices superbes et plus embellies encore par les délices qui y étaient rassemblées, pleines d'heureux citoyens, fiers de les habiter. » Donc là encore, si Golconde fascine, c'est parce qu'il y a une superbe forteresse, c'est parce qu'il y a effectivement des pierreries, et puis c'est le 18e siècle, c'est le moment où les Français ont connu Louis XIV, une monarchie absolue, une monarchie dure. Donc, l'image de cette reine qui est pleine de sagesse fait rêver les Européens. Et on va, dans la mode orientale, qui est celle que l'on connaît au XVIIIe siècle, c'est un mythe qui va aussi beaucoup faire rêver les philosophes. La nouvelle Cythère. Nous avons commencé ce voyage par l'île de Cythère, du côté de la Grèce. Or, pourquoi nouvelle Cythère ? Alors là, vous avez ici le roi Louis XVI qui organise une expédition. Les Anglais, grâce à James Cook et d'autres voyageurs, ont accompli le tour du monde. Et le roi Louis XVI, lui, souhaite aussi que des Français accomplissent le tour du monde. Donc, il va envoyer un voyageur, Louis-Antoine de Bougainville, pour accomplir à son tour le tour du monde. Vous voyez, il part à bord de deux navires, quitte l'Europe, longe la côte de l'Amérique du Sud, ensuite revient par ici et traverse un paquet d'îles en Océanie avant de contourner l'Afrique et de revenir en Europe. Et au cours de ce voyage, il va faire halte sur une île qu'il est très fier de découvrir. C'est une île à laquelle il va donner le nom de Nouvelle Cythère. Pourquoi ? Souvenez-vous, Cythère, c'est l'île de l'amour, parce qu'il rencontre une population très avenante, des jeunes femmes belles, nues. C'est un décor de, aujourd'hui, on dirait un décor de carte postale, il y a du sable, des palmiers. Alors c'est l'île de Tahiti. Et il dit, je viens de découvrir la nouvelle Cythère, c'est le paradis terrestre, c'est merveilleux, regardez, il y a de l'amour partout. Juste pour la petite histoire, hélas encore, nous, Français, arrivons après les autres. L'île a été découverte 2 années auparavant par un Anglais qui a noué d'excellentes relations avec le roi. Mais c'est le récit de Bougainville qui va avoir le plus de succès
parce que la manière dont il décrit l'île, il la décrit comme un véritable paradis terrestre. Effectivement, pendant plusieurs années, les écrivains vont décrire cette île comme l'équivalent du paradis terrestre. L'île sur laquelle il fait toujours beau, la population est avenante, agréable, où on passe son temps à festoyer. Ça, c'est une représentation de Tahiti dessinée par un des voyageurs qui accompagnait Bougainville. En guise de fin, j'ai envie de dire que le propre des contrées rêvées, c'est d'exciter l'imaginaire. J'ai envie de parler de trois personnes. D'abord de Schliemann, Heinrich Schliemann, qui en 1870, c'est un aventurier allemand, un archéologue amateur, il entreprend de retrouver le site de Troie. Alors il va chercher comme ceci, et il va découvrir un site, donc il pense que c'est Troie, à Hisarlik, et il fait creuser une longue et immense tranchée qui va lui permettre de mettre à jour une forteresse qu'il identifie comme les ruines de Troie. Et en fait, ces ruines vont lui révéler plusieurs cités superposées. Et en fait, il va dénombrer plusieurs états de la ville de Troie. Mais ce qui va être le plus fascinant, c'est que lui, il va trouver un trésor. Il va trouver un masque tout en or. C'est le masque d'Agamemnon. Il va trouver des parures en or. Et il va dire, j'ai retrouvé le trésor du roi Agamemnon. Et il y aura une photo qu'il prendra de son épouse avec la fameuse parure dorée. Et puis, il y aura ce superbe masque d'Agamemnon qu'il montrera, là encore, en faisant le lien entre la découverte et le mythe. Alors, on sait que ce ne sont pas le masque d'Agamemnon, ni les parures, joyaux, bijoux de son épouse. Mais pendant longtemps, on a rêvé sur ces bijoux. On a rêvé qu'effectivement, Agamemnon avait porté ce masque et que son épouse s'était parée de la parure en or. Ce monsieur, c'est Victor Bérard. Victor Bérard, c'est dans les années 20, c'est celui qui a donné, à mon avis, une des plus belles traductions de l'Iliade et une des plus belles traductions de l'Odyssée. Et lui, il part de quelque chose de fou, il se dit, mais l'Odyssée, c'est un livre de géographie. Il part sur un bateau avec un photographe, Frédéric Boissonnas, et il va faire le tour de la Méditerranée pour identifier tous les lieux qui ont été sur lesquels Ulysse a abordé. Et il va dire, voilà, la grotte de Calypso, elle se trouve du côté de Gibraltar. Le pays des lotophages, c'est l'île de Djerba. Et de ce voyage, qui va durer près de 2 années, il va rapporter un récit, les navigations d'Ulysse. Et puis le photographe va prendre plusieurs centaines de clichés photographiques. Pendant longtemps, ces voyages vont faire rêver. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de lieux qui ne sont pas ceux de l'Odyssée, qui ne correspondent pas. Ce qui est formidable, c'est de voir que cet homme qui avait lu, traduit l'Odyssée et l'Iliade est parti sur les traces d'un voyageur et d'un historien, en pensant que peut-être l'Odyssée, c'était une carte de la Méditerranée. Il y a une année de cela maintenant, et ce sera mon mot de la fin, il y a eu la découverte en pays maya d'une fabuleuse cité perdue et oubliée, qui a ranimé la flamme des chercheurs de trésors et de civilisations disparues. Certains se sont demandé, peut-être qu'il s'agit de l'une des 7 cités de Cibola. La nouvelle a agité la toile avant que la réalité décevante ne vienne mettre un terme au rêve. Il s'agissait d'une supercherie, ourdie par un adolescent. Une grossière plaisanterie, me direz-vous, déçue. Cependant, vous répondrai-je, êtes-vous certain que le rêveur qui est en vous n'a pas souhaité un instant que cela fût vrai ? Je vous remercie de votre attention.
Ouais. Dire quelque chose sur ce livre-là.
Est-ce oui. Voilà. C'est. Or, en fait, il y a.
la conférence d'aujourd'hui, Conférence Comté, voilà, part de ce livre, cet atlas des contrées rêvées qui est paru l'an dernier chez Artaud. Donc l'idée, voilà, c'était de rassembler un certain nombre de lieux. Donc c'est une traversée, on part des continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques, et puis aussi les marges du monde, donc de l'Antiquité jusqu'au 19e, fin du 20e. Alors c'est un ouvrage qui est aussi agrémenté de cartes qui ont été réalisées par Karine Derick-Froger. Alors l'idée c'était d'inviter au voyage. Voilà, ce sont des textes qui se veulent écrits et poétiques, et puis des cartes pour accompagner à chaque fois vos pérégrinations. Alors, à chaque fois, pareil, les textes sont très courts, c'est 2-3 pages. Hein, c'est donné un certain nombre d'informations historiques, géographiques, sur les populations, ce qu'on racontait, ce qu'on croyait à l'époque. J'en profite aussi pour parler du bestiaire fantastique des voyageurs. Ça, c'est un ouvrage que j'ai dirigé, auquel ont participé de nombreux amis et collègues. C'est sur les animaux qui ont là aussi... Alors, il y a à la fois des animaux inventés, comme la licorne, le roc, le diable de mer. Alors, qu'est-ce que le diable de mer ? Le diable de mer, on imaginait un poisson avec une gueule béante, comme ça, qui pouvait engloutir éventuellement des humains. Donc vous avez des animaux assez fascinants. Et puis il y a aussi des animaux qui ont disparu, comme le dodo, qui a connu une tragique fin du côté des Mascareignes. Voilà, donc là aussi, ça couvre différents continents, différentes cultures, différentes civilisations. Ce n'est pas exhaustif, l'idée, ce n'était pas de faire un volume de toutes les créatures du monde, ce sera impossible, mais voilà, d'avoir un aperçu, et en fait, toutes les générations aussi s'y retrouvent. Voilà, un collègue a aussi écrit sur le dahu, et alors ça fait... La chasse au dahu, et en fait, ça part d'un fondement, il y avait des travaux sérieux qui ont été écrits sur le dahu, donc l'idée, c'est aussi ça, c'était de montrer la relation entre l'imaginaire et la réalité. Cette créature, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez très mal, parce que la photographie n'est pas idéale. Donc, un poulet avec une queue de dragon et puis des ailes comme ceci. Donc, ça, c'est une créature qui est assez étonnante. Alors, vous allez me dire, ça n'existe pas. Cependant, il en existe des spécimens. Pourquoi ? Quand la réalité n'existe pas, que fait-on ? On la crée. Alors, vous avez quelques petits malins qui s'amusaient à empailler des poulets, à coller des ailes de chauve-souris, une queue de gros lézard, et voilà, on avait l'animal qu'on décrivait depuis si longtemps. Voilà pour ces deux livres. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Comment sont collectés un peu ces récits ? En fait, comment tu travailles, toi, pour écrire ces textes-là ?
Alors... En fait, je suis parti de nombreux récits de voyageurs. La base, ce sont vraiment les récits de voyageurs. Dans le cadre de ma thèse, c'était une thèse qui portait sur 16e, 17e, 18e siècle. J'ai eu l'occasion de lire vraiment tous les classiques des voyages. Donc Marco Polo, Bougainville, Christophe Colomb. Donc beaucoup de ces livres ont paru dans les années 80 aux éditions de La Découverte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette collection avec l'encadré noir. Donc la base, ça a été les récits de voyage, les textes fondateurs aussi, les textes d'Homère, Iliade, Odyssée, et puis les cartes. Donc partir de cartes d'époque, ici j'ai essayé d'en montrer un certain nombre. Donc ça a aussi été un travail passionnant au département des cartes et plans. Si vous avez l'occasion d'y aller, alors bon, c'est toujours un peu le problème. Ici, il faut toujours être accrédité, etc., avoir des papiers pour. Mais c'est fascinant parce que on travaille dans un espace où vous avez des cartes qui peuvent être aussi grandes que cet espace-ci. Donc il vous faut un escabeau pour pouvoir. Ce sont ce qu'on appelle des cartes historiées avec des descriptions sur les populations, sur les lieux où on peut trouver de l'eau, sur les animaux qu'on rencontre, sur. Donc voilà, j'ai aussi eu la chance de travailler sur ces cartes ou sur des globes aussi. Et donc, ça a été aussi. C'est à partir de reproduction de ces cartes que l'illustratrice Karine a travaillé. L'idée, c'était d'avoir des cartes stylisées. C'est pas, voilà, on voulait pas faire un travail de géographe ou de cartographe. L'idée, c'était pas ça. C'est de, voilà, montrer quel est le lien entre l'imaginaire et le réel, et puis entraîner, voilà, le lecteur dans une pérégrination poétique. Donc, on a trouvé un fil conducteur. Ensuite, il y a évidemment des lieux qui n'ont pas pu être localisés, comme le jardin des Hespérides. Bon, on peut pas avoir de carte. Donc, on a donné une carte qui correspond à l'endroit le plus proche, hein, d'où les voyageurs l'ont localisé à l'époque. Voilà.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous. Merci. Vous êtes venus aussi nombreux, je suis surpris. Merci. Bon. OK. Celle du livre, du... Oui, bon. C'est en... Oui, là, vous avez pas mal de, ouais, de cartes d'époque. Hein. Bon, celle-ci, c'est pas... Ouais. Merci.
Voilà.
Celle-ci est superbe. Ça correspond vraiment à ce que j'expliquais. Vous avez à la fois des informations, c'est-à-dire qu'on écrivait vraiment sur la carte, et puis ici, les animaux qu'on trouve dans les parages, ainsi que les populations. Et vous voyez, là encore, c'est une population qui s'est déplacée. C'est comme les mythes, en fait, et les localisations géographiques. Là, vous avez le blémie, avec le visage au milieu du corps, et puis l'Amazone, juste à côté, qui est représentée. Et alors, ce qui se faisait souvent aussi, lorsque le cartographe ignorait finalement les réalités, comment se prolongeait la contrée. Donc, vous voyez ici, ce qu'il représente, c'est la partie qui est connue. Voilà. Le reste qu'il ne connaît pas, il utilise un cartouche, voilà, une illustration, on installe du texte. Il y a aussi certaines cartes, c'est assez drôle. Il y a de fausses déchirures, comme si la carte avait été déchirée, donc on enlève l'endroit qui est gênant. Voilà, donc vous avez ceci.
La grandeur réelle de cette carte, c'est...
C'est assez grand, ouais. Ça peut être assez gigantesque. Hein. Celle-ci, je ne me souviens plus, mais ça peut... Oui, les tailles, ça peut être immense. J'avais pu travailler sur une carte de l'expédition François le Vaillant en Afrique australe, donc à la fin du XVIIIe siècle. Et donc... on suit, lui, là, ce qu'il y a sur cette carte, c'est qu'il y a les dates. C'est-à-dire qu'on suit, c'est comme un journal, sauf qu'au lieu d'être écrit, le journal est sur la carte. Et donc, on suit son itinéraire, comme ceci, avec des petites descriptions. Ici, nous avons rencontré des Namaquois, nous leur avons donné du tabac, etc. Ils nous ont donné ceci. Ici, nous avons rencontré, et ça continue comme ça. Celle-ci est aussi très impressionnante. Donc celle-ci, oui, c'est dans chez Munster, la cosmographie de Munster. Moi, elle m'impressionne toujours, cette carte, parce qu'elle doit dater des années 1536 ou 1540. Et aujourd'hui, avec les satellites, etc., c'est assez facile de cartographier. Se dire que voilà, ça a été réalisé dans ces années-là, avec simplement les étoiles, le compas, etc., les mesures, c'est extraordinaire. Voilà, d'avoir une carte qui ressemble effectivement à ce que représente l'Afrique aujourd'hui. Celle-ci est très belle. On l'a vu. Voilà, prêtre Jean. L'Afrique de l'Est. Voilà, là aussi très précise. Ça, c'est une carte de Samson qui date du XVIIe siècle. Donc là aussi, vous voyez, on a... c'est très proche de la configuration de l'Amérique du Sud telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. Et puis on l'a aussi... voilà un tracé très précis des cartes du Mexique. Alors, mon éditrice Charto a a réédité, c'était il y a 2 ans de ça, la cosmographie de, c'était cosmographie de Le Testu, cosmographie universelle. C'est assez fabuleux, ça, très extraordinaire.
Et vous avez des projets?
Oui, je travaille sur différentes choses. Ouais, là, je travaille sur ce serait un ouvrage autour des peuples disparus. En fait, comme les Lacandons qui avaient été rencontrés par Soustelle et voilà, qui est une population qui s'est éteinte, ou les Alakaloufs. Sur lequel on a un très beau témoignage de José Emprère. Lui, il a assisté à la fin de cette population et raconte leur extinction comme ça. Donc l'idée, voilà, serait de regrouper un peu ces témoignages. L'histoire des Alakaloufs, c'est... Il y a eu plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est parce que lorsque les Anglais les ont rencontrés, donc c'est à l'extrémité de la Terre de Feu, ils s'aperçoivent que ces individus vivent complètement nus. Enfin, alors, ils se disent, les pauvres, ils sont nus, il fait froid, on va les habiller, donc ils les couvrent de vêtements. Ce qui se passe, c'est que les indigènes attrapent la variole, qui, bon, déjà fait des dégâts considérables. Ensuite, autre chose, c'est souvent dans une population, il y a un élément qui permet de vivre. Et là, c'est toute la population des phoques qui donnent à la fois de la graisse. Ils utilisent la peau pour construire les cabanes, etc. La chair pour se nourrir. Donc c'est leur principal moyen de subsistance. Et les Anglais vont faire un massacre terrible. Donc c'est vraiment du... Là, c'est extensif, c'est-à-dire qu'ils détruisent. C'est pas la période où on se préoccupe d'écologie, de voilà. Tout ce qu'ils peuvent tuer, ils le tuent, et cela pour utiliser la graisse pour éclairer les rues de Londres. Donc vous imaginez à une ville comme Londres ce qu'il faut comme quantité. Donc voilà, ils vont puiser. Évidemment, les animaux n'ont pas le temps de se reproduire. Ça bouleverse complètement l'écosystème et surtout le mode de vie de ces populations. Donc ils se retrouvent, n'ont plus de quoi construire leur habitat, subsister, etc. Et du coup... vous avez, c'était en plus des populations qui vivaient par petits groupes, c'était par famille comme ceci. Donc ça se désagrège encore plus. Vous imaginez bien que lorsque la cellule, c'est une famille, vous avez l'espèce se perpétue, mais il y a beaucoup de consanguinité. Donc en fait, il y a une dégénérescence qui est très prononcée. Et lorsque José Emprère, l'ethnographe, les rencontre dans les années au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voilà, il trouve des groupes qui, entre tous ceux qui ne sont pas morts de la variole, ceux qui ont réussi à survivre en s'adaptant plus ou moins aux nouvelles conditions, ceux qui ne sont pas débiles ou victimes de ce phénomène de vieillissement. Il y a des photos qui sont terribles. On voit des individus, on se dit, tiens, ils ont, je sais pas, 50, 60, 70 ans. Non, ce sont des gens qui ont 35, 40 ans. Ça, c'est comme ils se sont reproduits entre eux.
Ah, oui.
La consanguinité fait que ça détériore, ça n'agit pas seulement, voilà, sur l'intellect, ça agit sur tout le reste. Et donc le fait qu'ils meurent de plus en plus jeunes fait qu'à un moment, lorsque l'ethnographe les rencontre, ils sont une poignée, quoi, une petite 100, 150. Il retrace un peu, il fait tout la carte de chacun, et après il revient au cours de deux missions. Et là, il voit qu'entre la première et la deuxième mission, il y a seulement un an qui s'est écoulé. Il y a un tiers de la population, imaginez, sur 150, qui est décimée. Qui revient, et d'après, ils sont plus qu'une cinquantaine. Après, il y a l'alcool, il y a les meurtres, il y a ceux qui... donc vous avez aussi le gouvernement chilien qui a tenté de... mais vous ne pouvez pas, comme ça, tirer des individus d'un mode de vie pour les plonger dans un mode de vie qui n'est pas leur. Donc ça a donné des catastrophes, parce que le choc de culture était trop violent. Il y a eu un très beau roman de Jean Raspail, que vous avez peut-être à la bibliothèque, « Qui se souvient des hommes ?» qui raconte aussi de manière romanesque, voilà, l'épopée des Alakaloufs. Mais vous voyez, il n'y a pas une cause, c'est vraiment un ensemble. Ça va mal ensemble.
En Afrique.
Ça, c'est la Terre de Feu, au bout de l'Amérique, ouais, Amérique du Sud, ouais. Alors, en Afrique, il y avait une autre population, les X, qui avaient, voilà, ça a été aussi dramatique. Voilà. Donc ça, c'est voilà, un des projets, que j'ai. Voilà. C'est pas un projet. Je dirais, c'est voilà, ce sont des groupes, des peuples qui ont disparu. Mais en fait, ça, je dirais, ça nous interroge sur nous, notre devenir. C'est-à-dire que j'avais lu un texte passionnant de Jared Diamond, que vous avez peut-être ici à la bibliothèque, qui s'appelle « Effondrement ». Il raconte l'effondrement des civilisations. Et son livre commence par un intéressant chapitre qui s'intitule « Sous le ciel du Montana ». À me dire, tiens, le Montana, bon, ça n'a pas disparu, il n'y a pas... Mais en fait, ce qu'il explique, c'est que du fait de politiques qui ont été prises, de choses qui ont été introduites, etc., tout l'écosystème du Montana a changé en moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il raconte, par exemple, comment, pour faire plaisir à de riches pêcheurs, on a introduit une variété de gros poissons dans les lacs, et que ces poissons, en un temps extrêmement rapide, ont dévoré tout ce qu'ils trouvaient. Voilà. Voilà, tout ça pour faire plaisir à quelques personnes, ils ont détruit tout un écosystème. Il explique aussi comment, pour avoir plus de rendement au niveau des productions de métal, de bois, etc., finalement, les eaux usées ont été rejetées dans la nature, mais elles ont complètement détruit le sol. Ce qui fait que le sol qui a reçu tous les déchets, en fait, cet état, le Montana, qui était, bon, comme son nom l'indique, un état très très vert, avec des collines, etc., maintenant, toute la végétation ne peut pas pousser de la même façon. Donc, et même chose pour les animaux. Les animaux perdent évidemment leur cadre. Donc, c'est un chapitre qui est vraiment passionnant parce que c'est une façon de dire voilà ce qui s'est passé sur ces 50 dernières années. Donc, si on continue comme ça, on ne pourra plus vivre ici, sera plus gérable. Voilà, et ensuite il explique aussi, raconte la disparition des grandes civilisations, Inca, Maya, etc. Et voilà.
Quoi, l'exemple des X, qui est une histoire assez connue, intéressante, parce qu'eux ils disparaissent parce qu'ils ont perdu la capacité de s'occuper des uns des autres, en fait.
Oui.
Destruction sociale, et là c'est une peuplade qui devient en très petit nombre, et l'une des particularités, plusieurs récits sont intéressants, l'explorateur les rencontre, en fait, il laisse les vieux mourir au milieu
de la rue,
il laisse... Donc c'est une espèce d'image très radicale d'une société qui s'occupe plus d'elle-même, où chaque individu ne s'occupe plus que de lui, et donc l'explorateur qui découvre ça, il est à Paris, il y a cette très belle histoire où il sort une vieille femme d'un fossé, elle lui dit qu'elle va mourir malheureuse parce qu'elle a vu la bonté une dernière fois, et qu'elle aurait préféré mourir comme ça. Lui, il croit l'aider, en fait, il dit, vous m'avez rendu malheureuse à jamais, parce que du coup, j'ai vu que la bonté existait encore.
C'est un récit qui est paru chez Terre Humaine, c'est Colin Turnbull, peut-être que vous l'avez aussi ici à la bibliothèque, et le sous-titre, c'est « Survivre par la cruauté ». Un sous-titre qui est terrible, mais qui va complètement dans le sens de ce que tu disais.
La quête de l'or, de la matière première.
Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Oui, complètement. Ouais. Avec...
C'est peut-être pas que la quête de l'or, ce qu'on pourrait dire aussi, que c'est l'histoire de la modernité, c'est l'histoire aussi du projet d'un ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'Europe est arrivée à un niveau de développement, outre le fait qu'il faut plus de moyens pour continuer, il faut aussi une extériorité, c'est-à-dire qu'il faut un monde à découvrir. Vous voyez, aujourd'hui, le grand projet, c'est Mars, qui a la même histoire, en fait. On va dire qu'il y a des ressources, mais en réalité, c'est pas que les ressources physiques, c'est aussi une construction d'une société qui va se projeter vers la nouveauté. On est quand même à une époque aussi où la question de l'invention, que la technologie va suivre. On va faire des bateaux, on va construire quand même beaucoup de choses pour l'or, mais aussi pour être des sociétés qui se projettent vers un avenir... Ouais. Ça va être un moteur aussi social.
Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu... C'est en Amérique du Sud, notamment, qu'on va trouver les utopies. La Araucanía, de Alonso de Ercilla. Alors l'Araucanie, c'est un territoire immense. Effectivement, on va vouloir y fonder la cité parfaite, la cité idéale. Il y aura même un Français, Antoine de Toulins, qui deviendra roi de Patagonie. C'était un personnage qui était avoué dans le sud de la France. On y est un peu, site de montagne immense. Voilà, il décide de monter un empire, de recruter des courtisans, etc. Il part. Et puis à un moment, les Araucans, quand ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui s'invite pour devenir roi, bon, il le met à la porte, voilà, avec l'aide des autorités chiliennes. Et après, il va essayer de revenir, mais bon, il ne pourra pas. Et puis il y a aussi la cité du roi Philippe, hein, les Espagnols qui ont essayé de construire là aussi deux cités rêvées, deux cités parfaites en terre de feu. Ça a été un désastre, c'est-à-dire que les expéditions sont arrivées, ont laissé à la fois 150-200 personnes en deux points, et les conditions sont tellement rudes que les individus sont morts d'abord parce qu'ils ne parvenaient pas à dominer l'environnement, entre les vents, les froids, etc. Et ensuite, un groupe qui a cherché à rejoindre l'autre, et les morts se sont accumulés le long du chemin. Cela aussi, c'était périlleux. Donc il y a eu aussi effectivement cela, les rêves de cité parfaite, rêves de cité idéale. Alors après, il y a aussi eu Francisco de Pizarro a trouvé énormément d'or. Hein, il y a cette scène terrible avec l'empereur qu'il fait étrangler. Une fois que la pièce a été remplie d'or, il fait exécuter une quarantaine de chefs aussi. Donc lui, c'est celui qui représente la destruction, aidé aussi par la traductrice Malinche, cette femme qui a été le moyen de communication entre les Indiens et les Espagnols. Je pense que vous l'avez, le texte à la bibliothèque, c'est le rêve mexicain de Leclésio. C'est un texte extraordinaire. Leclésio montre comment, en fait, c'est tous les calendriers des Indiens, tous leurs livres, leurs codex, qui précipitent leur destruction. C'est-à-dire que dans les codex, on parle de la venue d'étrangers, on parle de la venue de gens qu'il faut nourrir, etc. Et on va le nourrir avec de l'or. Et en fait, voilà, en restant complètement, accrochés à leurs croyances, ils précipitent leur destin, ils précipitent leur perte. Et la façon, Leclésio a une façon de raconter cet engrenage qui est vraiment remarquable.